Vous connaissez probablement un petit peu l'histoire du peuple hébreu telle qu'il nous est relatée dans l'Ancien Testament. Nous savons que c'est un peuple qui a donc pris possession de la terre promise, mais qui a pendant longtemps été harcelé par ses ennemis environnants. Il y a un peuple en particulier qui a été pendant longtemps comme un aiguillon pour les Israélites, ce sont les Philistins, qui étaient installés sur ce que nous appelons actuellement la bande de Gaza. Et le passage que nous allons étudier s'inscrit dans ce contexte-là. Nous sommes à peu près autour de 1000 ans avant Jésus-Christ, et le peuple israélite n'a pas encore de roi. Il est dirigé par le dernier, ce qu'on appelle le juge, en l'occurrence Samuel. Et le texte que nous lirons traite d'une bataille, épisode malheureusement assez classique, entre le peuple d'Israël et les Philistins. Cette bataille qui va donner lieu à une issue imprévue. Le coffre de l'Alliance va être capturé par les Philistins, déposé dans le temple de ce peuple, et devant la statue. Cette statue tombera, et le coffre de l'Alliance, après bien des pérégrinations, finira par retourner auprès des Israélites. Ce matin, mon but, ma prière, c'est que on puisse examiner en nous toute forme de fausse spiritualité, tout ce qui pourrait exister dans notre cœur, qui ne serait pas la gloire de Dieu, toute forme de superstition, afin que nous y renoncions et que notre adoration envers le Seigneur Jésus-Christ soit renouvelée et exclusive. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'exalter ce matin encore. Nous avons lu dans ta parole qu'il y avait une différence fondamentale entre ta personne qui a tout pouvoir, toute autorité sur ce monde et les idoles qui ne sont que des fabrications humaines, qui ont une bouche mais qui ne peuvent parler, des yeux mais ne peuvent voir, des mains mais qui ne peuvent agir. Face à cette réalité, tu te présentes comme le seul vrai Dieu, celui qui commande à l'univers, celui qui est digne aussi d'être adoré par ton peuple. Et ce matin, nous voulons te demander, te prier pour que tu parles à nos cœurs encore, que nous soyons pleinement à toi, que peut-être nous remettions en question devant toi s'il y a des choses qui ne te glorifie pas, purifie toutes choses par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons donc lire ce matin dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 4. Alors, on va faire des découpages, hein, parce que ce sont des passages assez longs, on ne lira pas tout. On va commencer donc 1 Samuel, verset 1 au verset 11, que l'on va découper en plusieurs parties, et on va commencer donc avec les deux premiers versets que je propose de lire ensemble, 1 Samuel chapitre 4, versets 1 et 2. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël, et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Ebenezer, et les Philistins établirent le leur à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia. Les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Voilà une situation assez classique. En quelque sorte, la situation initiale est posée. Elle est sobre, elle est directe, deux armées s'affrontent, les Philistins d'un côté, les Israélites de l'autre. La bataille fait rage, les Israélites perdent. Nous avons la défaite. Les Israélites vont chercher la solution. On poursuit donc au verset 3 et 4. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher le coffre de l'Alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. On envoya donc des gens à Silo, et ils en ramenèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophi et Phinéas, accompagnèrent le coffre de l'Alliance de Dieu. Nous voyons aussi des Israélites perplexes. Par expérience, ils savent que souvent un revers militaire est synonyme de désapprobation divine et ils cherchent à comprendre. Ils disent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui ?» Ils ont bien conscience qu'au-delà de l'aspect militaire, il y a un aspect spirituel. D'où vient cette défaite ? Mais notons que cette question, aussi légitime soit-elle, reste assez superficielle et n'entraîne pas pour autant la recherche de la vraie réponse. Nous avons lu au verset 1 tout à l'heure que Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. Il y avait donc en ce temps-là un juge, un prophète, clairement identifié par le peuple d'Israël, qui pouvait expliquer les choses, qui pouvait demander à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de demander à Samuel, les responsables décident, de leur propre initiative, de prendre une autre solution qui leur semble meilleure à leurs yeux. Aller chercher le coffre de l'Alliance et le ramener sur le champ de bataille. En apparence, cette décision semble empreinte d'une certaine spiritualité. Après tout, n'était-ce pas après avoir tourné cette fois autour de Jéricho avec le coffre de l'Alliance devant eux que l'Éternel avait livré cette ville en leur pouvoir ? Le coffre de l'Alliance n'était-elle pas le symbole de la présence de Dieu ? N'était-elle pas l'objet le plus saint que les Israélites possédaient ? La solution semble spirituelle. Et on charge donc des hommes de ramener ce coffre, qui était donc à l'époque à Silo, et il est accompagné par Ophi et Phinéas. La précision est importante, parce que Ophi et Phinéas, ce sont deux Lévites, qui étaient les fils du grand prêtre Élie, et ces deux Lévites, donc attachés au service de l'Éternel, étaient connus, notoirement connus, pour leur comportement scandaleux. La Bible les désigne de manière très peu flatteuse comme des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ce qui est un peu embêtant pour des Lévites quand même. On lit ça dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Ce sont des gens qui profanaient les offrandes, qui étaient normalement réservées à Dieu, qui couchaient avec les femmes qui se présentaient devant l'entrée de la tente de la rencontre. Bref, des hommes très très loin de représenter la fonction qu'ils étaient censés faire. Leur présence, donc, en tant qu'accompagnateur de l'arche, pose réellement question. En soi, elle est scandaleuse. Mais peu importe, finalement, un coffre sacré accompagné par deux représentants de la religion, ça ne peut qu'apporter la victoire. Et c'est en tout cas ce que pensent les Israélites à ce moment-là. Nous avons le coffre, il est accompagné par deux Lévites, c'est dans la poche. Pourtant, cette décision témoigne d'une connaissance très superficielle de Dieu. Quelle médiocre considération, même pourrait-on dire, pour celui qui les a fait sortir d'Égypte, qui a manifesté tant de fois sa puissance parmi le peuple hébreu. Quelle est leur vision de Dieu en ramenant ce coffre parmi eux ? Finalement, cette décision témoigne que leur vision de Dieu est teintée, elle est même imprégnée, je dirais, d'une certaine forme de paganisme. Ils considèrent Dieu comme un simple génie qui est dans une lampe à huile, vous savez, hein, comme dans Aladdin, on frotte et puis le génie il sort pour résoudre vos problèmes. Une question, un vœu, hop, exaucé. Cette façon de voir porte un nom, on l'appelle superstition. La superstition utilise les apparences de la piété ou de la religion pour parvenir à ses objectifs. Elle invoque les symboles de la divinité, mais dans un but utilitariste, matérialiste et systématiquement égocentrique. Mais Yahvé n'est pas un génie dans une lampe à huile. Il nous est rappelé au verset 4, on l'a lu, qu'il est l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Et je trouve que cette expression qui est pleine d'emphase est vraiment intéressante parce qu'elle met un contraste saisissant entre d'un côté la vision des Israélites qui se disent ouais, avec un coffre de l'Alliance, c'est bon, on va régler le problème. Mais de l'autre côté, il nous est rappelé que ce coffre n'est pas juste un coffre, c'est celui de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Nous sommes ici en présence du peuple juif élu, qui a reçu la loi, qui a été instruit dans la vérité depuis 400 ans, qui a été bénéficiaire et témoin des miracles prodigieux tout au long de son histoire. Et même les Philistins, nous le lirons tout à l'heure, sont au courant de la puissance de l'Éternel et attribuent à Dieu l'éclatante victoire que les Juifs ont eue contre les Égyptiens. Et cela devrait nous interroger. Nous qui sommes le peuple racheté, le peuple enseigné dans la vérité de la Bible, comme l'ont été les Juifs de l'époque, quelle est notre vision de Dieu ? Sommes-nous des adorateurs attachés à lui, en esprit et en vérité, ou bien des superstitieux qui s'attachent aux formes extérieures de la foi tout en reniant ce qui en fait la force? Il peut exister une forme de superstition chrétienne, entre guillemets, qui peut se manifester de manière visible, par exemple en portant une croix, un peu comme un talisman qui est censé nous aider dans les difficultés, bien en mettant une Bible en évidence dans la bibliothèque du salon pour créer une sorte de bulle protectrice pour tout le foyer. Et comprenons-nous bien, hein, il n'y a rien de mal en soi à porter un bijou en forme de croix ou avoir une Bible dans sa bibliothèque. Hein. Là n'est pas le problème. Mais le souci, c'est le pouvoir qu'on attribue à ces symboles, qui ne sont que des symboles, qui ne sont que des objets. Disons-le sans ambiguïté, ces pratiques superstitieuses ne servent à rien. Ce n'est pas le fait d'avoir un bijou ou d'avoir une Bible chez soi qui règle le problème, qui nous protège. Ces pratiques-là même n'honorent certainement pas le Seigneur, parce qu'elles le rabaissent à notre niveau. Elles mettent Dieu dans une boîte. Mais au-delà de ces pratiques visibles, peut-être existe-t-il aussi une forme de superstition chrétienne, toujours avec des guillemets, plus subtile, moins évidente. Par exemple, ne prier que quand les choses vont mal. C'est une forme de superstition, se dire j'ai un problème, d'un seul coup je me rappelle qu'il existe un Dieu dans le ciel qui peut-être pourra m'aider. S'appuyer sur la foi de ses ancêtres ou de ses parents, on entend parfois dire de la bouche de certaines personnes, « Moi, mes ancêtres étaient des huguenots envoyés dans les galères. » Comme si cette vérité historique était censée protéger ou assurer un certain succès ou une assurance spirituelle aux descendants. La superstition chrétienne peut être aussi le fait de chercher les signes d'une supposée volonté divine dans les événements fortuits de la vie. On entend, par exemple, si la prochaine voiture qui passe est verte, ça veut dire que Dieu permettra que je réussisse mes examens. Ou autre. Donner la dîme en espérant une faveur divine, etc., etc. Les exemples seraient nombreux. Au fond, derrière ces comportements, souvent se cache la peur et ou une méconnaissance de qui est le Seigneur. La seule foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, libère de ces superstitions. Nous n'avons pas besoin de nous attacher aux formes extérieures de la religion ou de la foi. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce qu'il attend de notre part, c'est une confiance en lui. Et peut-être avons-nous besoin ce matin de nous rappeler, de rappeler à notre âme inquiète que notre Seigneur est souverain sur toute chose, qu'il est l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. L'évocation seule de son nom glorieux devrait suffire à balayer toute forme de superstitions inutiles. Et nous allons voir donc maintenant que cette solution humaine qui avait été trouvée pour délivrer les Israélites des Philistins ne va pas marcher. Nous lisons donc à la suite chapitre 4, versets 5 à 11. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grands cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur, car ils se disaient « Dieu est venu dans le camp des Hébreux !» Et ils ajoutaient « Malheur à nous, il n'en était pas ainsi auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël perdut 30 000 hommes. Très lourde défaite par rapport aux 4000 précédents. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophi et Phinéas, moururent. Un des problèmes de la superstition, c'est qu'elle donne une fausse assurance. Quand l'arche arrive, les Israélites poussent de grands cris de joie au point d'en faire trembler la terre. Et en face, les Philistins n'emmènent pas l'arche. Ils disent, nous l'avons lu, « Malheur à nous, il n'en était pas ainsi auparavant ». Sous-entendu, quand ils voient que l'arche arrive, ils se disent « Mince, les Israélites viennent de renverser le rapport de force ». Ils ont, en quelque sorte, et c'est dans la vision païenne hein, des Philistins, ils se disent « Les Israélites viennent de dégainer un super dieu ». Vous savez, c'est un peu comme une partie de Pokémon Go, je ne sais pas s'il y a des amateurs ici. Vous venez de sortir un Mewtwo, et là, vous êtes sûr de gagner. Ou si vous êtes un amateur de poker, vous dégainez une quinte royale et c'est gagné. En quelque sorte, les Philistins, dans leur vision païenne, hein, c'est ce qu'ils pensaient. Les Israélites, mince, ils ont sorti un atout. Comment on va faire ? Alors bon, à coup de auto-persuasion, Philistins, soyez forts, soyez des hommes, combattez. Message très, très viril. Ils parviennent à se ressaisir. Ils livrent bataille et finalement ils gagnent la partie. Le désastre est complet. Sur le plan humain, bien sûr, avec 30 000 hommes tués, mais aussi religieux. C'est une catastrophe pour le peuple hébreu. Une incompréhension totale. Et plus loin dans le passage, on voit que la belle-fille de Phinéas, donc l'un des Lévites qui avait transporté l'arche, résume la situation merveilleusement bien. Elle dit « Oui, la gloire a quitté Israël, car le coffre de Dieu a été pris. » Ce que nous lisons au verset 22. « Comment est-il possible que le grand Dieu d'Israël ait ainsi perdu la bataille ?» Et c'est là toute la question des Israélites. Au travers de cet épisode, Dieu voulait donner une leçon à son peuple. D'abord, et nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il comprenne que la victoire ne s'obtient pas par la détention d'un objet aussi saint fut-il, ce qui était évidemment le cas de l'Arche de l'Alliance, mais que la victoire s'obtient par une attitude de cœur, par une repentance qui honore Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, ce qu'on voit au chapitre 7 de 1 Samuel, la victoire va être donnée aux Israélites contre les Philistins. C'est un peu la revanche. Mais comment ? Il y a eu un processus. Le peuple a commencé à vouloir revenir à Dieu et Samuel leur a dit « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel. Rendez-lui un culte à lui seul. Alors, il vous délivrera des Philistins. » Comptez pas sur un coffre. Comptez sur la puissance de l'Éternel qui répond à ceux qui lui sont attachés. Et donc, conséquence, les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Je ne veux n'être qu'à toi, ils auraient pu chanter ça. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, nous avons péché contre l'Éternel. Et à la suite de cela, la victoire va leur être accordée contre les Philistins. Donc, première leçon que Dieu voulait donner à son peuple, halte à la superstition. Vous voulez la victoire, ne comptez pas sur les apparences de la religion, mais comptez plutôt sur le Dieu vivant et soyez avec lui des hommes pleinement attachés. Mais en plus de cette leçon, Dieu voulait utiliser cet événement pour montrer sa grandeur dans un pays païen, en l'occurrence le pays des Philistins. Et c'est ce que nous verrons juste après. Les Israélites se sont demandé, mais où est Dieu? Que fait-il? Et ça peut être aussi parfois notre question face aux événements au contraire de la vie, dans nos vies personnelles ou dans ce que nous voyons autour de nous. Dieu a-t-il perdu la bataille? Parfois la question est légitime, on peut se la poser. Mais rappelons-nous à ces moments-là qu'il a une vision globale et que les événements, souvent, ne prennent leur sens, les événements au contraire, ne prennent leur sens que plus tard, bien plus tard dans nos vies, voire même parfois plusieurs siècles à l'échelle de l'humanité. Nous avons de multiples exemples historiques qui nous montrent que, en apparence, le plan de Dieu a été vaincu, que Dieu a été vaincu, mais nous comprenons bien plus tard que tout cela a contribué finalement à sa gloire. Donc apprenons aussi, nous, à exercer notre foi face aux événements contraires de l'existence, car rien n'échappe à son contrôle, et ce que nous allons lire à l'instant le démontre d'une façon éclatante. Nous lisons donc dans le chapitre 5, les versets 1 et 2, pour commencer, partie que j'ai intitulée « Dieu gagne, même quand il perd ». Après s'être emparé du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ébénézer à Asdod, donc une ville philistine. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Dans les cultures païennes, la victoire militaire était aussi vue comme une victoire spirituelle. Et Dagon, donc, qui est la principale divinité du peuple philistin, dans ce contexte-là, il semble, a été plus forte que le dieu des Israélites. Dagon a gagné contre Yahvé. Et le symbole de cette victoire, c'est que le petit coffre de l'Alliance, hein, qui n'est finalement qu'un coffre d'1m25 sur 75 cm de large, donc il ne faut pas s'imaginer un grand coffre, c'est quelque chose d'assez petit. Ce petit coffre est installé à côté d'une statue que l'on imagine volontiers assez imposante, à Asdod, donc, je l'ai dit, qui est une des villes principales des Philistins. Nous avons ici toutes les apparences de la défaite de Yahvé contre Dagon, le grand dieu des Philistins. Mais la suite est surprenante. Versets 3 à 5. Le lendemain matin, les habitants d'Asdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel, sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Nous avons là un incroyable retournement de situation. Par deux fois, cette grande statue de Dagon est littéralement prosterné devant le coffre de l'Alliance et adore Yahvé, pourrions-nous dire. La deuxième fois, ses mains et ses têtes et sa tête coupées, donc les organes qui représentent la capacité d'agir, les mains et puis la réflexion de la tête, donc sa tête coupée, ses mains coupées témoignent de sa défaite totale devant l'Éternel. Dagon, devant cette arche, est battu, anéanti, humilié. Et le verset 3 en rajoute une couche. Ils, donc les habitants d'Ashdod, ou peut-être les prêtres, le remirent en place. Le grand dieu Dagon a besoin de l'aide des hommes pour être remis sur pied. N'est-ce pas une image misérable? Quelle ironie, j'ai envie de dire, des écrivains de ce texte-là. Cette victoire, a priori éclatante contre Yahvé, nécessite qu'on le remette à sa place. Mais arrêtons-nous un instant sur cet épisode parce qu'il y a plus à nous dire que cela. L'Arche de l'Alliance, c'est un symbole très important. Ce coffre-là, qui symbolise la présence de Dieu, est aussi ce qui annonce ou ce qui préfigure Jésus-Christ. Sur ce coffre de l'Alliance, nous avons un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, le grand prêtre faisait une fois par an un sacrifice pour son propre péché et pour celui du peuple. L'objectif était d'apaiser la colère de Dieu contre ses péchés, d'obtenir le grand pardon. Dieu devenait ainsi propice, d'où le nom de propitiatoire, envers son peuple. Il y a beaucoup de symboles dans cette Arche de l'Alliance, et je ne vous en donne qu'un seul avec ce propitiatoire, qui montre en quoi cette Arche nous parle de Jésus-Christ. Vous voyez venir l'analogie. Jésus-Christ, son sang a coulé une seule fois pour couvrir nos fautes et rendre Dieu propice envers toutes celles et ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a ouvert une nouvelle alliance bien meilleure, bien supérieure à la première. Ce passage est en quelque sorte une prophétie. À la croix, quand nous y réfléchissons, il semble que Jésus a perdu. Tout comme dans ce temple de Dagon, Dieu semble avoir perdu. Mais finalement, Christ a triomphé en ressuscitant 3 jours plus tard. La puissance de la mort a été anéantie. Satan, qui est représenté ici par Dagon, a les mains coupées, ce qui signifie que ses œuvres ont été détruites. Et n'est-ce pas ce qui s'est passé à la croix? L'œuvre de Satan, son pouvoir, a été anéanti. Sa tête a été écrasée, comme cela avait été annoncé dans la Genèse. La tête de Dagon est coupée, la tête de Satan a été écrasée sur la croix. Dieu gagne même quand il perd. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1, versets 19 à 21, « Cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dénomination, de toute souveraineté, ce qui inclut donc toutes les puissances spirituelles. » Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Jésus-Christ a pleinement vaincu sur la croix, et la résurrection en est la preuve la plus éclatante. Dieu annonce en avance, au travers de cet épisode, cette vérité merveilleuse. Les idoles n'auront pas le dernier mot. Satan n'aura pas le dernier mot. Poursuivons notre lecture au verset 6 et 7. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Asdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs. Des rats apparurent dans le pays, semant la mort et la destruction dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Asdod déclarèrent : Le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon, notre Dieu. Et, en effet, sur ce point, les habitants d'Asdod avaient vu juste. L'origine de leur problème vient de la confiscation illégitime de l'Arche de l'Alliance. Mais au lieu de le renvoyer chez les Israélites, ce qui aurait dû être normalement la conséquence logique, eh bien, ils décident de déplacer le problème. C'est ce que nous allons lire juste après. Verset 8. Ils envoyèrent chercher les princes des Philistins pour les réunir chez eux et ils leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre du Dieu d'Israël. Ceux-ci décidèrent de le transférer à Gath, ainsi une autre ville philistine, ainsi on y transporta le coffre du Dieu d'Israël. Mais quand on l'eut transféré là-bas, l'Éternel intervint contre les habitants de cette ville et il sema la terreur. En effet, l'Éternel les frappa tous, quelle que soit leur condition sociale, et ils furent atteints de tumeurs. Alors, ils expédièrent le coffre de Dieu à Écron, une autre ville philistine. Mais lorsqu'il arriva là-bas, les Écroniens protestèrent en criant « Ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent et ils leur dirent « Renvoyez le coffre du Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne nous fasse pas mourir, pour qu'il ne fasse pas mourir toute la population. » Une peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu la frappait sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Quand nous lisons ce texte, nous sommes frappés par le plan de Dieu. Et tout d'abord, par sa patience. C'est peut-être pas ce qui saute le plus aux yeux d'un premier abord, mais quand même, la patience de Dieu est manifeste. D'abord, avant de frapper les habitants de Asdod, il frappe leur idole. Par 2 fois. C'était une sorte de coup de semonce. Un message qui disait « Attention, ce coffre n'a rien à faire ici. Renvoyez-le chez les Israélites. » Un peu comme Dieu a frappé les Égyptiens de manière crescendo, jusqu'à devoir tuer les premiers-nés des Égyptiens. Il a d'abord manifesté sa patience, il a averti avant d'intervenir contre la population. Dieu a manifesté véritablement sa patience. Il a ensuite manifesté sa suprématie. Dans tout le pays de la Philistine, il a été manifeste qu'il y a un Dieu vivant qui est Yahvé et qu'il est bien plus puissant que tous les autres dieux, les autres idoles. Le temple donc a été amené à Asdod, puis à Gath, puis à Écron, qui étaient à cette époque-là les principales villes philistines de l'époque. C'est un peu comme si le coffre avait voyagé de Paris, Lyon, Marseille. C'est une façon de montrer que toute la population, tous les Philistins ont été au courant de cette situation-là. Et la population a été frappée, quelle que soit sa condition sociale. Les plus riches comme les plus pauvres, les puissants comme les plus démunis, ont été frappés par ce fléau. Tout le pays a été au courant qu'il y a un Dieu véritable et suprême. Dieu a manifesté sa toute-puissance par cet événement-là. Mais ce passage nous montre aussi le coupable entêtement des Philistins. Il est quand même surprenant de voir que les Philistins avaient immédiatement identifié l'origine de leur problème, puisqu'ils disent au tout début du verset 7, le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon notre Dieu. Ils savaient que l'origine de leur problème venait de ce coffre. Et quand il fait, pendant 7 mois, ils l'ont gardé avec eux. Quel entêtement quand même, non ? 7 mois de désolation, 7 mois de mort, 7 mois de tumeur, avant de se décider enfin à rendre le coffre aux Israélites. Et là, effectivement, les fléaux se sont arrêtés. Ce passage peut-être nous parle ici de l'entêtement coupable de tous ceux qui résistent à l'appel de Dieu, qui ont entendu l'Évangile, qui ont été au contact du message de la grâce et qui ne se sont pas tournés vers lui, qui préfèrent endurer ses coups plutôt que capituler devant lui. Peut-être y en a-t-il parmi nous dans cette salle. Peut-être y a-t-il des personnes qui ont entendu ce message, qui l'entendent, qui font la sourde oreille et qui s'étonnent de connaître problème après problème. Notre Seigneur n'est pas, n'aime pas utiliser ce moyen-là. Ce qu'il voudrait, c'est que le pécheur se repente, mais parfois, il n'a pas d'autre solution que d'utiliser la force pour ramener à lui des personnes qui le fuient. Est-ce votre cas ce matin ? Si c'est le cas, je vous invite vraiment à ne pas attendre 7 mois comme les Philistins ont attendu, mais à vous donner pleinement à ce Dieu de grâce, de miséricorde et d'amour. Et j'ai oublié une de mes feuilles, qui doit être certainement là. Merci. De toute façon, on arrive à la fin. Conclusion que j'aimerais résumer en 3 points très courts qui reprennent ce que nous avons lu ce matin. D'abord, une conclusion qui s'adresse à tous les enfants de Dieu, nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur. Nous sommes son peuple, mais nous pouvons parfois tomber dans une certaine forme de superstition coupable qui nous donne un faux sentiment de sécurité, tout comme les Israélites étaient convaincus de leur victoire parce qu'ils avaient le coffre de l'Alliance avec eux. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Ce serait peut-être le message que je voudrais faire passer ce matin. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Ne croyons pas que parce que nous avons les apparences extérieures de la foi, Dieu sera pour nous. Cultivons au contraire une proximité sincère, une dépendance quotidienne avec le Seigneur ressuscité qui lui seul peut intervenir en notre faveur. Deuxièmement, louons le Seigneur pour sa victoire à la croix. Il a combattu à notre place et il a gagné. Dagon est face contre terre devant l'arche de l'Alliance, tout comme Satan est soumis devant Christ. Et même si le diable, encore aujourd'hui, s'acharne à détourner les hommes de la vérité, même s'il continue à combattre, et si parfois il obtient certaines victoires, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire nous est acquise, non pas par nos propres forces, mais parce que Christ a vaincu sur la croix. Il a gagné pour nous. Si vous n'appartenez pas au Seigneur ce matin, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre de lui donner votre vie et connaître enfin cette délivrance de la mort et du jugement à venir ? Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas être au bénéfice de cette victoire de Jésus-Christ ? Cette victoire sur la croix, c'est la démonstration suprême que Dieu gagne même quand il perd. Et si nous sommes à lui, ne perdons pas courage quand les épreuves nous accablent, quand nous voyons autour de nous que les valeurs morales les plus évidentes sont bafouées. Nous pouvons nous interroger, nous pouvons nous demander où est Dieu, a-t-il perdu ? Mais il n'a pas perdu. Son plan s'accomplira certainement. Alors, que nous puissions être encouragés par ce texte ce matin, si cela est nécessaire, venir ou revenir auprès du Seigneur Jésus, afin que lui seul règne dans nos vies, pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Amen.